Le journal présenté par Thomas Nagy.
Bonjour, c'est un sujet récurrent de l'entre-saison, les pneus d'hiver. Depuis le 1er octobre, certaines normes ont changé, certaines gommes ne sont plus considérées comme des pneus d'hiver. Explication dans un instant. Un ouvrage pour comprendre et tenter d'améliorer la situation en République démocratique du Congo, le brin trutin Pierre Maurer vit aujourd'hui à Kinshasa. Dans son livre, il propose un regard académique multiple sur la crise qui gangrène le pays depuis des dizaines d'années. Le FC Ajoie Monterrey s'est adjugé le derby de 2e Ligue interrégionale hier soir. Il s'est imposé 1-0 face au FC Tavannes Tramelan sur la pelouse synthétique de Courgenay. Les nuages ne vont pas nous quitter aujourd'hui. Cet après-midi, quelques averses pourraient même faire leur apparition par endroits. Au niveau des températures, il fera jusqu'à 15 degrés en plaine et 13 dans les franches montagnes. Depuis ce 1er octobre, certains pneus ne sont plus aux normes. Les gommes qui ont uniquement une inscription M plus S pour neige et boue ne sont plus considérées comme des pneus d'hiver. Le symbole décisif désormais, c'est le sigle en forme de montagne accompagné d'un flocon. Michael Burry, garagiste à Tavannes, explique que les lettres M et S sont surtout présentes sur les pneus toute saison. Mais alors, que risque-t-on si l'on continue de rouler avec ces derniers? On écoute sa réponse.
Pour rouler tous les jours, comme dans des conditions maintenant où il y a de la pluie, des choses comme ça, ça fonctionnera très bien, il n'y a aucun risque, mais sur des conditions enneigées où il y a une perte de maîtrise du conducteur due à la mauvaise condition de la route et qu'il n'a pas réussi à s'arrêter, les assurances pourraient se retourner contre cette personne parce qu'il n'avait pas les pneus adaptés. Ce qu'il faut, c'est vraiment voir ce sigle lors de sorties hivernales avec des routes enneigées ou des routes qui ont moins de 10 degrés qui commencent à givrer le matin, on va dire d'ici mi à fin octobre, c'est la condition pour chez nous, aux alentours de 1000 mètres d'altitude, il faut vraiment avoir ce signe-là parce que c'est un pneu qui travaillera beaucoup mieux sur ces routes-là.
Pour revenir encore sur ce que risquent les automobilistes, on risque des problèmes uniquement en cas d'accident. On risque pas tout d'un coup, si on se fait arrêter pour un contrôle de police et qu'on voit que les pneus ne sont pas forcément aux normes, est-ce que dans ce cas-là, on risque une amende ?
Alors ça, c'est une très très bonne question. Moi, je ne conseille pas de s'amuser à savoir si oui ou non on est conforme. Le but, c'est de ne pas jouer avec la sécurité. Quand on a un accident, c'est trop tard. Donc il faut vraiment avoir conscience qu'il faut choisir un pneu d'hiver pour l'hiver et un pneu d'été pour l'été. Dans nos régions à nous, on ne peut pas s'amuser à jouer avec ça. Je ne pense pas qu'on va recevoir une amende, mais c'est clair que la police doit faire aussi le chien fou pour dire aux gens « faites attention, vous roulez avec des pneus qui ne seront pas adaptés ».
Michael Burry qui répondait à Tom Bullman a noté encore qu'en Suisse, rouler avec des pneus d'été dans des conditions hivernales est punissable, quel que soit le véhicule. Pour rappel, la loi prescrit une profondeur de profil minimale de 1,6 mm pour les pneus, mais une profondeur de 4 mm est recommandée pour les pneus d'hiver. C'est un conflit qui perdure et pour lequel il ne semble pas y avoir de solution. La République démocratique du Congo est gangrénée par des conflits entre groupes armés, des conflits qui sont particulièrement virulents aujourd'hui dans l'est du pays. Pour tenter de trouver des solutions à ces problèmes, le monde académique congolais pense, analyse, réfléchit et propose. En septembre 2023, un colloque réunissant de nombreux experts sur la question a été mis sur pied par le docteur Pierre Maurer, brin trutin d'origine aujourd'hui installé à Kinshasa. De ce colloque, il a fait un livre récemment sortie de presse qui s'intitule « Groupe armé et développement en République démocratique du Congo ». Il s'agit pour lui d'un moyen aussi de mettre en lumière une crise trop souvent oubliée. Pierre Maurer.
Alors notre idée, c'était de faire une sorte de photographie de la situation, avec l'idée que peut-être on pourrait refaire le même exercice à une date ultérieure pour pouvoir comparer, voir si les choses s'améliorent ou se détériorent, et ça par secteur. C'était ça l'idée, l'ambition globale. Parce qu'il faut bien voir qu'il y a assez peu d'ouvrages sérieux, si j'ose dire, sur cette question qui est pourtant gravissime et qui concerne des millions de gens et dont on parle jamais.
Et si la situation RDC reste trop souvent oubliée, c'est aussi parce qu'au sein même du pays, la question est absente des discussions, selon la Congolaise Marie-Josée Kumutsima qui a participé à l'élaboration du livre.
Si au niveau national, les sujets commençaient à toucher toutes les couches de la population, que tout le monde s'intéressait à ça, de savoir qu'à l'est de notre pays, il y a la population, il y a des gens qui souffrent, il y a des femmes qui sont violées, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, et que ça devenait un sujet peut-être sur tous nos débats, toutes nos discussions, je crois que peut-être l'extérieur pourra aussi s'intéresser de ça. Mais si du point de vue national déjà, on trouve peu d'intérêt, je crois que c'est ce qui fait que les conflits existent, mais à l'extérieur de la RDC, on n'en parle pas trop.
Si on n'en parle pas aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de journalistes. On ne peut pas y aller, c'est trop dangereux. et aussi parce que chacun a son intérêt. Tous les groupes armés défendent leur propre intérêt. Il y a aussi des pays voisins qui ont un œil là-dessus, mais parfois bien plus qu'un œil. Il y a beaucoup de leaders congolais qui sont compromis dans ces trafics et qui n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on en parle ailleurs. Donc toute cette conjoncture de choses fait que, à la fin, on ne veut pas en parler et on n'en parle pas.
La Suisse et l'Union européenne veulent parvenir à un accord d'ici la fin de l'année. La présidente de la Confédération, Viola Amert, et son homologue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'ont encore rappelé cette semaine. L'idée est d'actualiser les accords bilatéraux existants et d'en développer de nouveaux, en incluant des éléments institutionnels comme la reprise dynamique du droit européen et le règlement des litiges. Mais les opposants au futur accord sont en train de fourbir leurs armes et pour gagner, ils comptent sur l'homme politique de l'année, Pierre-Yves Maillard. Le commentaire de notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier.
Un comité a lancé cette semaine une initiative pour soumettre le futur traité avec l'Union européenne au vote du peuple et des cantons. Ces entrepreneurs et économistes ne veulent pas d'une reprise dynamique du droit européen. Et pendant leur conférence de presse, ils ont cité Pierre-Yves Maillard comme potentiel allié dans leur combat. Le président de l'Union syndicale suisse a déjà gagné 2 votations populaires cette année. Et sur le dossier européen, mieux vaut l'avoir dans son camp. La position de Pierre-Yves Maillard et des syndicats peut tout faire basculer. S'il rejette l'accord, il passe du côté de l'UDC d'une partie de l'économie et le futur traité n'a aucune chance. S'ils soutiennent l'accord, la bataille s'annonce plus équilibrée. L'ancien conseiller fédéral UDC, Christophe Blocher, l'a bien compris, lui qui a invité Pierre-Yves Maillard à 2 reprises cette année aux réunions de son parti. Mais attention! Car si l'UDC et le comité des entrepreneurs sont fondamentalement contre cet accord avec l'Union européenne, ce n'est pas le cas des syndicats et de Pierre-Yves Maillard. Ceux-ci sont actuellement très sceptiques, car le traité affaiblit la protection des salaires et le service public. Mais en fonction des résultats des négociations, ils peuvent encore changer d'avis et de camp.
Le commentaire à Berne de notre correspondante Marie Vuillemier. Au Liban, le Hezbollah dit avoir repoussé une tentative d'infiltration de l'armée israélienne dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Israël mène depuis plusieurs jours des incursions dans le sud du pays où elle combat le groupe pro-iranien. 5 frappes israéliennes visant la banlieue sud de Beyrouth et ses environs ont à nouveau secoué la capitale dans la nuit.
12h23, sport.
Dominer n'est pas gagné et les SR de Léman l'ont appris à leurs dépens, Émilie Momentaler.
Oui, les footballeurs de la capitale ont fait match nul 1-1 à Kriens hier en Promotion League. Les Lucernois, qui étaient sur le podium au coup d'envoi, ont ouvert la marque à la 83e. L'équipe d'Anthony Sirufo est parvenue à recoller dans le temps additionnel sur une tête de Mohamed Koulibaly pour arracher un point après avoir largement dominé le match selon son président Patrick Fleury. Les Jurassiens restent lanterne rouge avec 6 longueurs de retard sur la barre. Le leader de Premier League n'a laissé aucune chance au FC Courtaitel. Les Verts se sont inclinés 4-0 chez la réserve de Grasshopper hier, après avoir encaissé l'ouverture du score après seulement 50 secondes de jeu. La formation de François Marc n'a plus gagné depuis 5 rondes. Elle recule à la 11e place d'un classement serré, avec seulement 2 points d'avance sur la barre et 4 de retard sur le podium. Le FC Agen Montéry remporte le derby de 2e ligue interrégionale. Les Jurassiens se sont imposés 1-0 hier contre le FC Tavannes-Tramelan devant leur public de Courgenay dans un duel de bas de classement. Ils ont trouvé la faille à la 37e par l'intermédiaire de Joris Gester sur une sortie manquée du gardien de TT, Jaume Isler. Après avoir égaré des points en fin de partie lors de ses dernières sorties, Agen Montéry a cette fois-ci tenu pour conserver son maigre avantage jusqu'à la fin. Les Ajoulots renoncent avec la victoire après 5 journées sans succès, le buteur Joris Gester.
Je pense qu'on a été solide du début à la fin. On a réussi à marquer les premiers et puis derrière, on n'a pas encaissé, on est resté solidaire, que ce soit les 11 titulaires et puis les 3-4 remplaçants. Donc je pense que ouais, c'est une victoire d'équipe aujourd'hui. La manière n'était pas forcément là, mais on a fait ce qu'il fallait pour tenir le résultat. C'est vrai que dans la jury, on a fait mieux. Si je prends l'exemple de mercredi passé, on a joué à All Boys, qui est dans le haut du tableau. On a été bien meilleur dans la jury. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à mettre notre jeu qui nous caractérise depuis le début de saison, mais on a tenu le résultat.
Un petit peu en manque de confiance après les dernières sorties, peut-être?
Alors oui, un manque de confiance, mais on l'a rectifié aujourd'hui, donc ça annonce que du bon pour la suite. On le savait à la mi-temps, on se l'est dit, cette fois les gars, on craque pas, on reste. Les 3 derniers matchs, on a soit perdu ou bien on s'est fait égaliser en fin de match. On s'est dit là, on n'a pas le droit à l'erreur. On tient le résultat et on a tenu le résultat. C'est 3 points qu'il nous fallait, c'est 3 très bons points. Et puis j'espère que ça rappellera d'autres points par la suite.
Défaite 6-5 mercredi contre Mouri-Gumligen, l'équipe de Philippe Rossinelli concède ainsi sa deuxième défaite de la semaine, lors d'un match plutôt équilibré mais assez verrouillé. Le capitaine de Tavannes Tremblant, Théo Asunsao.
Après un match très intense, avec beaucoup de duels, on finit par s'incliner. Je pense qu'on a eu du mal à gérer les moments forts en notre faveur. On a eu des grosses occasions qu'on n'a pas réussi à mettre au fond. C'est vrai qu'en première mi-temps, ça s'est beaucoup observé. Ajo a réussi à ouvrir le score après une situation un peu compliquée de notre côté. Mais on a réussi à passer à autre chose. Puis en deuxième mi-temps, ça s'est débridé. À mon avis, il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés. Et puis finalement, comme je l'ai dit, on n'a pas réussi à concrétiser ces grosses occasions pour nous. Et c'est ce qui nous coûte la défaite.
Vous êtes incliné mercredi 6-5 après avoir longtemps mené au score. Est-ce que cette défaite a laissé des traces?
Alors à mon avis, elle a pu laisser des traces physiques sur tous les joueurs. On a livré un énorme combat sur une pelouse super grasse. Donc c'est vrai que dans les jambes, on le sentait. Après, mentalement, on a réussi à passer à autre chose. C'est vrai que c'était un scénario assez exceptionnel de perdre 6-5 comme ça. Mais mentalement, on est passé à autre chose dès l'entraînement de vendredi. Et puis là, franchement, on y était à 100% dans la tête. Ça n'a pas laissé de traces, non.
Ça fait 2 défaites en une semaine face à des adversaires directs au classement. C'est une mauvaise opération comptable.
Alors comptablement, effectivement, ce n'est pas le scénario rêvé. Maintenant, on a un petit peu de repos, 3 jours pour se remettre de ces 2 matchs. Et puis, il faudra attaquer de la meilleure des manières pour gagner à Dornard, puis concrétiser à la maison. Et puis, ma foi, faire ces 6 points pour coller au classement. Ouais.
Jean Monterry monte à la 11e place avec 2 points d'avance sur le dernier relégable, mais 1 match de plus au compteur. Tavannes Tremblant reste en zone rouge au 14e rang à 2 longueurs de la barre. On descend encore d'un échelon en 2e ligue avec Otageois qui a gagné 6-2 contre Oberdisbach et qui s'installe provisoirement sur la 2e marche du podium. En 3e ligue, dans le groupe 5, Moutier s'est incliné hier 4-0 à Bévillard sur le terrain du leader, le Birs Football Club. Dans le groupe 6, le leader Halle a été accroché 2-2 par l'US Boncourt. Vic est allé battre la Courtine et grimpe à la 3e place. En 2e partie de tableau, Delémont l'a emporté chez Agen Montéry. Dans un duel de bas de tableau, l'Olympique Failly a fait match nul, 1-1 avec Courtetel qui reste sous la barre. Le match entre Glovelier et Develier a lui été renvoyé en raison de l'état de la pelouse. On passe au hockey sur glace avec le HC Franche-Montagne qui a été récompensé de son long déplacement au Grison. Les Taignons de Mayo-Kell League l'ont emporté 4-1 à Rosa hier pour signer leur premier succès de la saison à l'extérieur. Ce 2e succès en 6 journées permet à la formation de Vincent Leschen de monter à la 8e place avec 2 unités de retard sur la 6e place directement qualificative pour les playoffs. Le HC Delémont-Vallée, en revanche, subit sa 2e défaite de la semaine. Les fantômes sont rentrés battus 5-3 de leur déplacement chez Vicky Munzingen et encaissent un 2e revers en autant de matchs en ce début de saison. En 2e ligue, le HC Moutier a lancé son exercice avec un succès 3-1 avant de la cour hier. De son côté, la réserve du HC Franche-Montagne a commencé avec une défaite 3-2 contre Star Chaudfond sur sa glace de Seignelégier. Rosmaison prend l'avantage alors que Buis n'a déjà plus droit à l'erreur en Liga d'Inline Hockey. Leader de la saison régulière, les Mustangs ont pris le meilleur sur la Tour, 12-4 hier à domicile lors du premier acte des quarts de finale des playoffs. Les Ajoulots se sont eux inclinés 10-5 sur la piste de Malcantonnet. Ces séries se jouent au meilleur des 3 duels. Les 2e actes auront lieu samedi prochain. Le volleyball Franche-Montagne va tenter de confirmer. Après leur succès inaugural de dimanche passé pour leur retour en Liga, les Taignons reçoivent Lugano à 16h30 à Seignelégier. Les Tessinoises font partie des prétendantes aux premières places. Et un mot de MotoGP avec Francesco Bagnaia qui n'accuse plus que 10 points de retard sur Jorge Martin avant les 4 dernières manches du championnat du monde. Après la course sprint hier, le pilote italien a signé le doublé au Grand Prix du Japon en remportant l'épreuve principale, alors que son rival espagnol a accroché la 2e place aujourd'hui sur le circuit de Motegi. Merci pour votre écoute, bel après-midi.